Alors, bonjour tout le monde. Alors, des gens répondent à Jésus. C'est le titre d'aujourd'hui. Et en fait, moi, j'aime beaucoup le premier chapitre de Marc. On revient à notre série sur l'Évangile de Marc. Et vous avez peut-être remarqué qu'on a sauté en avant. On a traité des passages dans des chapitres subséquents. Donc, juste, on vous avertit qu'on ne suit pas l'ordre exact. Moi, aujourd'hui, je reviens au premier chapitre avec une partie de cette histoire que j'aime beaucoup. On voit Jésus à l'œuvre et oui, c'est merveilleux d'avoir un sauveur qui aime recevoir nos demandes et les exaucer. Jésus écoute nos prières et il aime y répondre parce qu'il a le pouvoir de le faire. Et c'est vrai que bien souvent, on aimerait qu'il réponde différemment de ce que nous, on imagine. On aimerait qu'il réponde plus vite des fois. Il a son timing à lui, mais on le voit à l'œuvre. Et je pense à Mimi, donc on était tous en prière pour elle avec la maladie qu'elle a. Et il y a eu une percée la semaine passée qui, je pense, est une réponse de Jésus à nos prières. Ils ont découvert que où était l'infection qui causait la bactérie dans son sang. Et de ce côté-là, elle est en train vraiment, avec le nouveau traitement, de prendre beaucoup de mieux. Maintenant, on cherche un deuxième problème, c'est l'anémie, donc les globules rouges. Bon, on n'est pas ici pour faire un examen médical, mais on continue de prier pour la guérison de Mimi et cette deuxième percée. Amen. Le Seigneur écoute nos prières, il est compatissant et il a le pouvoir et la souveraineté de nous guérir, de répondre à nos prières. Et ce matin, peut-être que tu viens ici avec un besoin qui est enfoui dans ton cœur ou qui est peut-être vraiment sur tes lèvres déjà. Seigneur, guéris ma santé. Peut-être que tu as vraiment besoin d'une guérison ou en tout cas un désir d'une intervention puissante du Seigneur. Peut-être que c'est un élément de sagesse que tu as besoin pour une situation complexe. Tu ne sais pas comment régler le problème. Jésus peut et veut te donner de la sagesse. Peut-être que c'est la force dont tu as besoin. Je pense à nos étudiants, mais pas seulement. La force pour passer par un temps exigeant. Une situation de famille peut-être aussi. Un passage à travers un barrage routier. Peut-être qu'il y a un blocage devant toi. Jésus, ouvre un chemin pour moi ou pour ma famille. Peut-être que tu as vraiment besoin d'un meilleur emploi parce que ton revenu est insuffisant. Ça, c'est aussi une demande que tu peux soumettre à Jésus. Peut-être que c'est une source d'argent. Enfin, je lance le filet large. Après ce message, nous allons vous donner l'occasion de présenter une demande au Seigneur. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Et je vais vous donner l'occasion de présenter cette demande avec nous, pour qu'on puisse prier avec toi. Et je vais expliquer ça tantôt, mais tu peux déjà réfléchir. Et bon, est-ce que Seigneur, tu veux que j'amène ma requête devant toi ce matin? Mais dans le texte qu'on va lire, dans Marc chapitre 1, à partir du verset 29, on va voir que Jésus, il y a deux choses dans son cœur. Premièrement, il aime répondre à nos demandes et donner sa bénédiction. Mais aussi, il est attentif à notre réaction, notre façon de répondre à son geste d'amour. Alors, lisons le texte, mais d'abord, prions. On va prier encore une fois. Seigneur, nous venons devant toi, nous voulons écouter ta parole, nous voulons vraiment être ouverts à ce que tu veux nous enseigner. Et moi, personnellement, donne-moi un cœur d'écoute et d'obéissance pour que je puisse prendre cette parole et répondre d'une bonne manière. Je prie le Père, en ton nom, nous prions ensemble, au nom de Christ. Amen. Lisons ce petit texte. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un épisode dans la synagogue à Capernaum. Ça, c'est juste avant. Alors, ici, c'est la suite. En sortant de la synagogue, ils se rendirent, Jésus est dans le « il », hein? Ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha, la fit lever en lui prenant la main, et la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Toute la ville était rassemblée devant la porte. Il guérit beaucoup de personnes qui souffraient de diverses maladies et il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne leur permettait pas de parler parce qu'ils le connaissaient. Amen. Donc voici en deux petites phrases le résumé de ce que je veux vous dire ce matin, la leçon d'aujourd'hui qui nous vient de la parole de Dieu. Jésus est puissant, compatissant et entier envers nous. Hein? Il répond à nos prières, il répond à notre besoin. Jésus est puissant, compatissant et entier envers nous. Lorsque nous recevons sa grâce, apprenons à lui répondre de manière entière aussi. Dans le texte qu'on vient d'entendre, on peut observer des réponses différentes à la grâce que Jésus donne. Certaines des réponses sont présentées comme bonnes, d'autres moins bonnes et d'autres pas bonnes du tout. On va les regarder. En fait, il y en a quatre, on va les regarder toutes. Mais avant, je voulais juste dire que quand on lit les évangiles, on voit que Jésus y est très intéressé, très attentif aux réponses des gens. Pensez, par exemple, à son enseignement qui est dans Marc et ainsi que dans l'évangile de Luc, où il dit « Prenez garde, faites attention à la manière dont vous écoutez. » OK, ça veut dire que la parole de Dieu qu'on reçoit, c'est une bénédiction, c'est une grâce transformatrice, bénissante. Mais fais attention à comment tu écoutes, parce qu'il faut répondre, il faut obéir. Et Jésus est attentif à ça. C'est pour ça qu'il nous dit, faites attention. Ensuite, je pense à la parabole du semeur avec les quatre sols. Hein? Nous sommes des personnes qui recevons la semence de la grâce de Dieu comme un sol qui reçoit des grains de blé. Et Jésus dit que malheureusement, ce n'est pas tous les sols qui répondent de manière à ce que le grain puisse pousser. Alors, soyez attentifs pour être un bon sol. Hein? Jésus, il parle de ça souvent. Et même, il le vit dans des épisodes comme, vous vous souvenez peut-être, à un moment donné, il guérit 10 lépreux. Vous vous souvenez de cette histoire? Il guérit 10 lépreux, mais il y en a juste 2 qui reviennent lui dire merci. Juste 2! Et c'est marqué dans l'histoire, et Jésus va le commenter. Il dit, notez bien, il y en a juste 2 qui viennent rendre grâce à Dieu. Dans notre texte, nous voyons les réactions des gens. C'est raconté parce que c'est important. Alors, la première réaction dont je veux parler ce matin, qui m'a frappé, Évidemment, ça, c'est celle qui est à la fin du texte. C'est la plus mauvaise, la résistance des démons. Les démons qui sont en train d'être chassés. Et on a vu un épisode dans la synagogue. Il y a un démonisé qui, le démon se manifeste pour résister, pour garder la personne dans le royaume de l'ennemi de Dieu. On voit que les esprits du mal existent vraiment et ils sont autour de nous, la Bible nous dit, cherchent à avoir une emprise sur les gens et même sur les chrétiens, en particulier à travers la stratégie de la tentation et du péché. Donc, sachez que si vous voyez dans votre vie un pattern, qu'il y a une tentation qui est là régulièrement, et puis que peut-être que tu es tombé une fois, tu as demandé pardon, mais ça revient, n'oublie pas, il y a des forces du mal qui sont derrière cela. Et qu'il faut être attentif. Et ça peut aider de savoir, c'est pas juste mon choix à moi, mais il y a vraiment quelqu'un de maléfique. Satan et les anges qui se sont rebellés avec lui, qui veulent m'entraîner dans leur royaume à eux. Et Jésus est en train de délivrer des personnes qui sont tombées là-dedans, ici à Capernaum. Et il sait d'avance que les démons qui ont réussi à mettre leurs pieds, et plus que leurs pieds, dans la vie de ces personnes, ils vont résister avant d'être expulsés. Et ils vont s'exprimer, dire des choses nuisibles à l'œuvre de Jésus. Et donc, ce sont des voix, en fait, que peut-être on peut entendre, même silencieusement, dans nos âmes. Les démons expriment l'incrédulité, la rébellion, l'intimidation, la moquerie et, au fond, la haine de Dieu, le Dieu qui nous aime. Mais les démons n'y croient pas à son amour et l'expriment. Lorsqu'un débutant ou une débutante dans l'Évangile reçoit la grâce de Christ, cette personne va vivre une grande joie, un grand enthousiasme. Mais c'est pas rare que très bientôt après ça, il va commencer à entendre la voix, une voix à l'intérieur de lui qui lui dit, « Ben non, c'est pas Dieu qui a touché ta vie, c'est ton imagination. Tu te trompes. Les gens qui t'ont parlé de ça, ils sont dans les patates. » Ou ça peut être, « Ben non, Dieu ne peut pas te pardonner pour ce que tu as fait. Tu es une cause perdue. Non, reviens à ton ancien doute, à ton ancien chemin. » Et cette personne, ça veut dire chacun de nous, mais surtout au début, doit apprendre à dire non à cette voix qui, normalement, ça vient du royaume de l'ennemi. Donc, c'est pas seulement dans ma tête à moi, c'est pas juste mon doute à moi, mais c'est quelqu'un d'autre qui me pousse. Et c'est pour ça que dans l'évangélisation, et moi j'ai fait beaucoup d'évangélisation sur les campus universitaires et de cégep, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient vraiment difficile avec les lois de la laïcité. Autrefois, il y avait beaucoup de liberté, mais je me souviens, quand j'étais formé là-dedans, eh bien, on s'assoyait avec des étudiants dans la cafétéria, des gens qu'on ne connaissait pas, on leur racontait, on leur expliquait l'Évangile. Et il arrivait que les gens recevaient Jésus-Christ direct là, dans la cafétéria, pendant qu'ils étaient en train de manger leur lunch, et on priait avec eux, on les encourageait, on disait, « Wow, t'as pris la plus grande décision de ta vie. » Tu es maintenant dans le royaume de Jésus et oui, viens à notre soirée la semaine prochaine. Et puis, on lui disait des versets pour l'encourager. Mais il y avait un principe que nous, les gens actifs, on apprenait, c'est qu'il faut vraiment appeler la personne au téléphone quelques jours après, au plus tard, pour l'encourager. Pourquoi? Parce qu'on voyait que ça prend pas de temps que la personne nouvellement dans l'Évangile commence à avoir des doutes. Comment ça, mais est-ce que je suis devenu fou? Mais non, c'est des illusions. Ces gens-là qui sont venus me voir, c'est des malades, et ainsi de suite. Et un appel, ça peut vraiment aider. Et tout ça pour dire, donc, que dans les réactions à la grâce de Dieu, malheureusement, les démons sont aussi à l'œuvre. Et Jésus nous montre qu'il faut apprendre à leur dire « Tais-toi! » Que ce soit envers une autre personne qui est démonisée, mais comme je dis, c'est aussi dans notre propre cœur. La deuxième réaction dont je veux vous parler, c'est la vie d'hospitalité que l'apôtre Pierre commence à vivre avec son frère André. Il démontre de l'hospitalité envers Jésus et les amis de Jésus. Comme j'ai dit qu'on a lu plus tôt avant même la synagogue, ils ont été invités à suivre Jésus. Et quelle grâce qu'ils ont reçue. Suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Quelle grâce d'être invité dans cette école sélecte. C'est comme faire une demande pour être admis à votre programme d'études de rêve à l'Université Harvard ou à l'Université Cambridge ou, enfin, que sais-je, votre université préférée, puis que vous receviez la réponse, oui. Ils ont vraiment eu cette grâce de vivre avec Jésus. Et ils le voyaient aussi à l'œuvre faire des miracles. Jour après jour, ils viennent de passer une matinée avec lui et Jésus a travaillé fort pour enseigner dans la synagogue et il a même libéré une personne démonisée, une personne possédée. Personnellement, je trouve merveilleux que Pierre et André invitent Jésus à passer l'après-midi avec eux dans leur maison après la célébration. Lui était visiteur dans la ville de Capernaum et il l'invite, mais aussi avec ses autres amis, Jean et Jacques. L'idée, sûrement, c'était pour un repas, mais plus aussi. Leur hospitalité, elle est naturelle et elle est, on va dire, franche, transparente. Il y a une personne malade dans la maison, très malade, peut-être contagieuse. Et il ne cherche pas à la cacher, il ne cherche pas à la garder loin de Jésus, non. Il parle à Jésus de la belle-mère qui est malade. Et puis lui, il va la guérir. On va en parler plus tard. C'est aussi, ils comprennent que l'hospitalité avec Jésus, ce n'est pas à sens unique, c'est dans les deux sens. Soit hospitalier avec Jésus, il va être hospitalier avec toi comme invité dans ta maison. Il va te bénir, peut-être plus que toi tu le bénis. Alors, sois ouvert, sois transparent, sois humble et accepte aussi son amour. Il y a des familles chrétiennes qui pratiquent cette hospitalité. Cheryl m'a raconté que quand elle était petite, sa mère avait l'habitude de mettre un rôti de bœuf dans sa mijoteuse très souvent, peut-être à chaque dimanche ou presque, et avant de partir à la célébration. Et son attitude, c'était parce qu'elle partait à l'église avec son mari, ses enfants, et elle disait, bien, si le Seigneur nous met à cœur d'inviter à dîner un frère, une sœur ou un invité, ou Jésus lui-même avec ses disciples, non, j'exagère, mais comprenez, eh bien, nous sommes prêts. Et je pense, si j'ai bien compris, ça arrivait souvent. C'était spontané de cette manière-là. Et je l'ai vécu moi-même. Je parle maintenant d'une église qui pratique cela. Quand moi, j'étudiais à Paris, donc j'ai débarqué à Paris avec mes valises et j'étudiais, j'ai commencé à visiter une église potentielle pour que ça devienne mon église. Puis elle est devenue mon église, la Mission chrétienne évangélique de Levallois à Paris. Mais bon, peu importe le nom. J'ai commencé à visiter l'église un des premiers dimanches. Durant les annonces, le pasteur, il dit ceci mais à toute l'assemblée. Il dit, « Nous souhaitons la bienvenue à un nouveau parmi nous. C'est le jeune Marc du Canada qui est ici pour les études. Alors, ne manquez pas de lui dire bonjour après la célébration. » Si quelqu'un voudrait l'inviter à manger après la célébration, je suis sûr que ça lui ferait très plaisir. Alors, alors ça, j'appelle ça comme mettre de la pression. Mais en fait, non. Je vais expliquer pourquoi. Il y a quelqu'un après le culte qui est venu me voir. C'était un homme célibataire qui vivait tout seul dans un tout petit appartement à Paris. Et il m'a invité. Il dit, regarde-moi, ma maison est toute petite et puis j'ai un repas très simple, mais si tu veux venir... J'ai dit oui, je vais... Et c'est vrai que le repas était simple, c'est vrai que la maison était petite et je dois dire, c'était une de ces personnes qui accumulent beaucoup d'affaires. Alors là, c'était assez encombré, mais on a eu un repas bien simple, mais vraiment un bon temps. Et on s'est bénis mutuellement dans le Seigneur. C'était merveilleux. Et j'ai compris par la suite, parce que j'ai eu d'autres invitations après, que cette hospitalité du dimanche faisait partie des coutumes de cette église. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait pratiquer plus souvent dans nos vies, nous, les participants de l'Oasis? La troisième réaction qu'on voit dans le texte, l'enthousiasme des habitants de Capernaum. La foule est enthousiaste parce qu'il y a eu des guérisons opérées par Jésus, ainsi qu'un enseignement puissant dans la synagogue du matin. Et Jésus aussi avait commencé un ministère dans toute la région. La nouvelle circule. Et le même soir, la porte de la maison de Pierre est carrément bloquée par les gens qui amènent leurs amis, leur famille pour être guéris, pour être priés, imposer les mains, pour prier pour une délivrance. Alors, il y a un côté positif vraiment à la réaction enthousiaste de cette foule qui est vraiment débutante avec Jésus. Un côté positif et un côté négatif. Le côté positif, la foule aime Jésus et elle est inspirée par ce que lui, il apporte. Ils invitent leurs amis, ils invitent leur famille, puis ça, c'est toujours bien. J'espère que toi aussi, tu invites tes proches à venir à Jésus pour recevoir sa grâce. Merci à ceux qui ont invité un ami à la fête de Noël, par exemple. Mais ça peut se faire le dimanche matin. Ça peut se faire dans ta propre maison. La foule de Capernaum, elle est comme ça. Jésus accueille cette foi, lui aussi, avec simplicité et générosité. N'oubliez pas Jacques 1, verset 5. Ça parle de ceux qui demandent spécifiquement la sagesse, mais ça s'applique à toutes les prières. Il dit, n'hésitez pas de prier avec foi, parce que Dieu aime répondre aux prières avec simplicité et sans reproche. Je trouve ça merveilleux. Tu as une prière Aie pas peur de... Ah, oh, Dieu va me reprocher ma manière de demander. Il va analyser mon attitude. Amène ta prière. Dieu aime donner sa grâce avec simplicité et sans reproche. Jacques 1, 5. Mais en même temps, moi, je vois un petit problème avec la réaction de la foule. C'est parce qu'il y a un détail dans l'histoire. La foule attend que le soleil se couche pour apporter leurs malades. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils attendent le coucher du soleil? Ils ont honte, possiblement. Oui. Hein? Il fait moins chaud? Oui. C'est parce que c'est le sabbat. Eh bien, je veux dire, c'est pas marqué, mais moi, je pense que c'est parce que c'est le sabbat. Et les chefs religieux surveillent. La loi de Dieu dit ceci. Le dernier jour de la semaine, c'est le sabbat. C'est un jour réservé, désigné pour l'adoration de Dieu et le repos de l'être humain. Et malheureusement, les scribes et les pharisiens, au cours des générations, ont ajouté des règlements stricts et sévères pour transformer la loi du sabbat en quelque chose qui, selon Jésus, avait perdu son vrai sens. Il disait, par exemple, que c'est péché de marcher plus qu'un certain nombre de pas durant le sabbat, parce qu'à ce moment-là, tu es en train de travailler, et puis Dieu va te punir, Dieu ne va pas être content. C'est péché de travailler, par exemple, pour guérir quelqu'un le jour du sabbat ou l'aider à sortir du pétrin, sauf s'il est en danger de mort. Alors, vous voyez qu'un autre règlement strict que Jésus transgressait. Il a guéri un démoniaque qui vivait sa vie, mais qui était possédé. Il a guéri en plein sabbat à la synagogue. Et donc, on voit que Jésus veut amener les hommes et les femmes, y compris de cette foule, mais nous aussi, dans une nouvelle façon de vivre la loi de Dieu, qui se vit dans la liberté, à cause de l'assurance de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Alors, la loi est là pour nous guider, mais dans une vie de liberté et d'amour. C'est pas dans l'idée de règles strictes où tu dois rester bien à l'intérieur des règles pour ne pas courir le risque que Dieu soit fâché et te punisse. Jésus nous regarde, nous aussi, et il te regarde aussi. Et ce matin, avec amour, il te pose la question, « Toi que j'ai béni, est-ce que tu acceptes de renoncer à tes anciennes peurs religieuses pour entrer dans la liberté que je vis et que je veux t'enseigner? » Quand je dis « tes anciennes peurs religieuses », ça peut venir d'une église chrétienne. Des fois, les églises elles-mêmes, comme les pharisiens, rajoutent des règlements qui, finalement, si on n'y réfléchit pas, peuvent nous empêcher de montrer de l'amour et d'utiliser la loi de Dieu de la bonne manière. Quatrième réaction maintenant qu'on va regarder ce matin, et c'est la plus frappante pour plusieurs lecteurs, électrice. C'est celle de la belle-mère de Pierre. Que Jésus l'a guérie de la forte fièvre. On va relire le verset en question, le verset 31. Jésus s'approcha. Elle est couchée. C'est marqué qu'elle est couchée avec une forte fièvre. Jésus s'approcha, la fit lever en la prenant par la main. Et la fièvre la quitta. Puis elle se mit à les servir. Alors, moi, je vais vous raconter une histoire que ma mère m'a racontée. Donc, quand elle était déjà adulte, elle avait des enfants et elle était allée à la messe avec sa mère à elle, donc ma grand-mère maternelle. Ma mère est catholique, elle est encore vivante. Et la grand-mère aussi, qui est décédée maintenant. Et le prêtre, à cette messe-là, a lu comme évangile du jour, et c'est exactement ce texte où Jésus fait cette guérison-là dans la maison de Pierre. Et quand les deux dames qui étaient assises dans les bancs, j'imagine qu'il y avait des enfants, peut-être que j'étais là entre elles, quelques enfants entre elles, et elles ont entendu cette phrase de l'Évangile, puis elles se mit à les servir. Les deux femmes se sont regardées, ma mère, ma grand-mère, et c'est ma mère qui raconte, avec une expression d'étonnement, d'ironie, un peu de déception, et elles se sont comprises. C'est comme pour dire, « Oh non, Jésus est comme tous les autres hommes. » Il a guéri la belle-mère de Pierre pour qu'elle se lève et lui fasse à manger. Et honnêtement, je comprends cette réaction. Ça m'est déjà venu à l'esprit en lisant ce texte. Et c'est vrai que de la manière que c'est raconté, Marc, il dit parfois les choses le plus vite possible. Mais aujourd'hui, je peux dire, c'est une mauvaise interprétation du texte. La belle-mère de Jésus, de Pierre. La belle-mère de Pierre. En passant, ça montre que Pierre était marié. Elle reçoit la guérison. C'est elle qui répond librement après avoir reçu la grâce d'être guérie. Il n'y a pas de raison de penser que c'était sous contrainte. À mon avis, c'est librement, sans que Jésus ne demande rien. C'est elle qui répond à la grâce. Et à mon avis, même librement, elle fait ce qui lui vient naturellement, ce qui est sa force, ce qui est sa manière à elle de dire merci, avec les ressources, les talents, les idées qu'elle a, surtout à ce moment-là. Quand Jésus entre dans une maison, même les personnes les plus invisibles, on va dire, celles qui ont le moins d'importance, peuvent être touchées et transformées par son amour. Cette belle-mère, cette femme, elle a plusieurs désavantages dans la maisonnée. Premièrement, c'est une femme dans un monde dirigé par les hommes. Ensuite, elle fait partie des plus vieux, de la vieille génération. C'est une belle-mère. Et puis, c'est souvent un rôle impopulaire dans les familles. Et elle est malade, peut-être de manière contagieuse. Mais la belle-mère de Pierre, par ce qui lui arrive, à cause de la grâce de Jésus, devient une image de nous, une image prophétique de notre rencontre avec Christ. Pour chacun et chacune, notre existence chrétienne commence de la même manière que ce qu'on voit dans cette guérison. Jésus s'approche de nous, il nous prend par la main, il nous relève d'entre les morts et il nous a ressuscités pour une vie de service envers lui et envers son peuple. Amen! Dieu est merveilleux. Comment est-ce que tu as commencé à le servir au début de ta vie chrétienne? Je pense, comme la belle-mère de Pierre, avec tout ton cœur et avec ce qui te venait naturellement, avec les talents, les ressources, les idées que tu avais. Jésus va les accueillir. Mon frère, ma sœur, comment est-ce que je peux aujourd'hui répondre à Jésus en m'inspirant de la réaction entière et généreuse de cette femme. On va conclure maintenant avec, donc, un rappel de ces quatre réactions qu'on a vues dans ces quelques versets. La résistance des démons. Il faut apprendre à dire « tais-toi ». Hospitalité. Enthousiasme, mais que Jésus veut instruire pour amener plus loin vers un style de vie plus selon lui. Et finalement, le service entier et généreux. On pense à la belle-mère. Et tout ça nous a amené à cette leçon que je vous rappelle pour votre réflexion. Jésus est puissant, compatissant et entier envers nous. Et même aujourd'hui, même en ce moment, lorsque nous recevons sa grâce, apprenons à lui répondre de manière entière aussi. Amen. Alors maintenant qu'on a vu toutes ces choses, qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus maintenant et de lui soumettre un besoin? J'espère qu'il n'y a rien qui t'empêche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ce matin, une ou plusieurs personnes, qui aimerait présenter un besoin à Christ? Si oui, pourquoi pas venir en avant, le partager avec nous et on va prier pour toi. C'est Jésus qui va te répondre. Je vais inviter les musiciens à venir et à peut-être à commencer à jouer. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait venir demander qu'on prie avec toi pour un besoin, que ce soit ta santé, ta situation d'études? Les musiciens peuvent venir tout de suite. Oui, oui, oui.